Bonjour, bienvenue dans Super Burnette. Je suis Marlène. J'ai imaginé et créé ce podcast pour partager avec vous mes rencontres avec des personnes inspirantes. Parmi elles, j'ai rencontré Anne-Sophie qui a fondé l'association Elle Burn que nous appelons les Burnettes. L'association sensibilise les publics à la question du burn-out. Après des mois de fatigue, culpabilité, désespoir, il y a l'après-burn-out. Cette année, j'ai à cœur d'interviewer des femmes qui témoignent des violences sexuelles et sexistes qu'elles ont subies au travail et qui les ont précipitées vers le burn-out. Beaucoup de personnes témoignent de telles violences. Aujourd'hui, on veut en parler, comprendre et surtout sensibiliser face à ce sujet grave et préoccupant. Dans ce nouvel épisode, j'ai invité Jeanne à venir nous parler des violences sexuelles et sexistes au travail, avec sa casquette d'experte. En effet, Jeanne Gauthier-Lenoir est psychologue clinicienne spécialisée dans les pathologies liées au travail. Ensemble, nous allons décortiquer tout ce que représentent les VSST, le lien qui existe entre burn-out des femmes et VSST. Nous allons vous parler de toutes les mesures de prévention et des acteurs qui peuvent vous accompagner si vous vivez de telles violences ou si vous en êtes témoin. Donc je vous laisse découvrir la suite en deux parties. Bonjour Jeanne.
Bonjour Marlène.
Merci de réaliser avec moi cet épisode de Super Burnette en mode experte. Ensemble, nous allons parler des violences sexuelles et sexistes au travail. En fait, on se rend compte que de nombreuses burnettes témoignent avoir subi des VSST, voire même de se rendre compte quand on explique ce que c'est. Et du coup, on se dit que certaines femmes attribuent pour partie leur burn-out au VSST. Moi, aujourd'hui, j'aimerais bien avec toi qu'on puisse creuser cette question pour bien comprendre ce qu'elle représente et le lien qui peut être fait entre burn-out et VSST.
Pas de souci, ça va être notre objectif de la matinée.
Génial. D'abord, qu'est-ce que c'est que les violences sexuelles et sexistes au travail, si on peut les définir?
Oui. Alors, du coup, dans les violences sexistes et sexuelles au travail, tu vas avoir un certain nombre d'agissements et on va pouvoir les catégoriser. Donc, tu vas partir, imagine une pyramide, et dans cette pyramide-là, tu aurais une base qui s'appellerait les agissements sexistes. Et puis, tu vas monter en graduation avec la question du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et du viol. Et là, je te les ai présentés, on va dire, du moins grave au plus grave. Okay. L'idée, c'est de se rappeler qu'en fait, ce sont des comportements qui sont inappropriés, avec un caractère sexiste et ou sexuel, et qui vont porter atteinte à l'autre. Ça, c'est les grands éléments qu'on peut se donner en termes de repères, de compréhension de ce que c'est.
Mm-hmm. Du coup, on observe, je crois, une évolution des VSST. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte en France?
Oui, bien sûr. Alors déjà, on peut partir d'une sorte de constat et d'état des lieux. Tu vois, en préparant notre émission toutes les deux aujourd'hui, j'ai été rechercher quelques enquêtes pour qu'on ait des données chiffrées de ce qui se passe en France et qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc, je t'en cite 2-3 parce que c'est assez intéressant dans les éléments que ça nous permet d'identifier. Mmh. Par exemple, en 2007, l'INSEE avait réalisé une enquête qui s'appelle « Cadre de vie et sécurité ». Et cette enquête-là, elle avait permis de faire ressortir que 40% des femmes qui ont souffert de caresses, baisers et autres gestes déplacés non désirés l'avaient subi dans le cadre de leur travail pour 25%.
Ok.
Donc, c'est un premier chiffre, tu vois, qui était intéressant pour resituer le fait que les violences sexistes et sexuelles ont une part importante sur le lieu de travail. Et l'autre chiffre intéressant, c'était que cette enquête, elle indique que pour 2,2% des femmes, donc entre 18 et 59 ans, donc tu vois, plutôt population active, qui étaient victimes de viol, ce viol, il avait été commis dans 4,7% sur le lieu de travail. Mmh. Donc, on a, tu vois, je te donne ces chiffres-là exprès en démarrage pour qu'on puisse vraiment circonscrire ce qui se passe dans le milieu du travail sur cette question-là des violences sexistes et sexuelles, puisque nous, on va parler de ces deux pans-là ce matin. Je te donne un autre chiffre. Un peu plus tard, en 2013, on a donc une enquête, cette fois-ci une étude qui est réalisée par la DARES et qui permet de faire ressortir que 8% des femmes et 1% des hommes déclare avoir subi un comportement sexiste au travail. Donc ça, c'était pour donner aussi une différence genrée, tu vois, entre hommes et femmes. Et l'autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est que ces comportements à caractère sexiste l'étude révèle qu'ils sont moins fréquemment associés par les personnes à des dysfonctionnements de l'organisation du travail que les autres comportements hostiles en général.
D'accord. C'est-à-dire donc, que c'est moins visible dans le contexte, moins identifiable.
En fait, ça veut dire deux choses. Ouais, deux choses très intéressantes, je trouve, c'est que, un, on n'associe pas les comportements à caractère sexiste et sexuel à des comportements hostiles. Mmh. Et deuxièmement, on ne les associe pas à des dysfonctionnements de l'organisation de travail. Mmh. Donc ça, c'est très chouette d'avoir identifié ça, parce que du coup, si je peux le dire de cette manière-là, c'est que ça nous permet du coup de faire deux portes d'entrée en termes de prévention derrière, tu vois, dans le milieu de travail. Allez, je t'en donne une dernière, un peu plus tard. En janvier 2014, il y a une enquête qui a été réalisée par le défenseur des droits auprès de 1000 personnes qui étaient âgées de plus de 18 ans et d'un échantillon de 300 femmes actives, donc à peu près la même tranche d'âge que celle que je t'ai donnée préalablement. Et cette enquête-là, elle permet de révéler qu'une femme sur cinq a été confrontée à du harcèlement sexuel au travail, que dans 70% des cas de harcèlement sexuel, ils ne sont pas dénoncés auprès de l'employeur, et que seulement 18% des personnes interrogées déclarent que leur employeur a mis des mesures de prévention du harcèlement sexuel en place au sein de l'entreprise.
D'accord. On s'adresse au tableau.
Exactement, voilà. Ouais. 2021, c'est le dernier chiffre important, je trouve, qui était à ressortir. C'est une enquête mondiale. En fait, tu as l'Organisation internationale du travail qui s'appelle l'OIT, qui a fait une enquête et qui a permis de révéler, cette fois-ci à l'échelle mondiale, qu'une personne sur 10 déclarait être victime de violences et de harcèlement d'ordre physique au travail. Et c'est la première enquête mondiale que l'OIT a réalisée sur cette thématique-là. Donc c'est une enquête qui date de 2022 et qui a découlé sur quelque chose qui est important sur le plan politique pour la France. C'est la ratification en avril 2023, donc tu vois, il y a quelques mois seulement, de la convention dite 190 de l'OIT contre la violence et le harcèlement du monde du travail. Et ça, c'est important parce que c'est le premier instrument international contraignant contre le harcèlement et la violence au travail. Et ça se traduit par le fait qu'il va y avoir des normes qui vont être applicables à l'échelle mondiale, ainsi que des voies de recours pour les victimes, et que ça va permettre d'accentuer l'importance de la prévention par tous les acteurs concernés par cette thématique des violences sexistes et sexuelles au travail, entre autres.
D'accord.
Il faut vraiment le souligner comme une prise de conscience des pays, à la fois à l'échelle internationale et à la fois à l'échelle nationale. Donc, c'est tout à fait encourageant pour pouvoir faire évoluer effectivement, positivement les choses dans le monde du travail.
Ok. Et du coup, les chiffres font clairement ressortir que les femmes sont beaucoup plus touchées, en fait, qu'il s'agisse, moi je pense, au burn-out ou de VSST. Comment tu l'expliques? Pourquoi?
Alors, ça va nous renvoyer à plusieurs éléments. Tu te rappelles, il y a quelques temps, on avait fait un podcast toutes les deux, justement sur le burn-out. Et donc, on peut d'ailleurs inviter toutes les personnes qui écoutent ce podcast sur les violences sexistes et sexuelles à se référer à ce premier podcast-là. Et donc, je vais faire un lien sur une référence théorique qu'on avait déjà évoquée ensemble, parce que c'est un élément qui est vraiment important pour comprendre. En fait, il y a deux chercheuses en sociologie du travail qui s'appellent Danielle Kergoat et Elena Hirata et qui ont permis, à travers leurs travaux, d'identifier ce qu'on appelle la division sexuelle du travail. Et cette division sexuelle du travail, c'est un des éléments explicatifs du pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes par les violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, je te donne deux, trois éléments de caractérisation là dans le cadre du podcast. Ça a à voir en fait avec des attributions sociales qui sont genrées et des représentations sociales genrées. En gros, ça veut dire que dans le monde du travail, encore aujourd'hui, on va assigner de manière prioritaire aux hommes des activités dites productives et on va encore activer des représentations du type les femmes sont plutôt à assigner aux tâches reproductives. Tu rajoutes à ça qu'il y a encore en trame de fond le fait qu'il y a une captation par les hommes des fonctions sociales qui sont fortement valorisées. Donc, ça veut dire que les femmes, elles vont être du coup majoritairement encore plutôt positionnées sur des fonctions sociales qui sont moins valorisées. Et ce que ça permet de ressortir, c'est en fait des représentations dans lesquelles les hommes ils sont positionnés au-dessus des femmes. Donc, on va parler pour ça de représentations du côté de la virilité et d'attributions du côté de la virilité qui vont structurer les rapports entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Donc, en gros, ça va se décliner par les hommes doivent avoir des métiers avec certaines caractéristiques et les femmes d'autres caractéristiques. Et donc, pour les femmes, avec cette lecture-là de la division sexuelle des métiers, elles sont assignées à des postes qui vont plutôt être des postes qui sont en lien avec une autre personne ou qui vont être peu qualifiés ou peu rémunérés. Et on va être sur ce qu'on appelle une essentialisation des compétences. C'est-à-dire, on va dire, parce que c'est un métier féminin, ce n'est pas vraiment des compétences, puisque c'est des compétences féminines. Et donc, on va, chanter en fait la réalité du parcours d'études des femmes, qui en plus, quand on étudie les parcours d'orientation et d'études supérieures, pour celles qui y accèdent, en fait, les femmes, souvent, elles travaillent plus et elles ont de meilleurs résultats que les hommes. Donc, ce décalage-là, il est très intéressant à repérer parce que c'est ça qui permet de faire ressortir que c'est ces représentations sociales genrées-là qui vont du coup influencer côté homme comme côté femme. C'est ça qu'il faut voir dans la manière de se comporter après dans le monde du travail. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, ça a à voir avec la répartition des tâches entre la sphère professionnelle et la sphère domestique. Et toutes les études, de manière répétitive, soulignent la persistance de la répartition sexuée du travail entre la sphère professionnelle et la sphère domestique, qui se traduit par le fait que c'est encore majoritairement les femmes qui portent la charge mentale domestique plus que les hommes. Je crois qu'un des derniers chiffres, c'était 73%. Donc, ça veut dire que, en fait, si je suis une femme, non seulement je vais avoir accès à des métiers qui sont moins qualifiés ou ça va m'être plus difficile d'accéder à un métier aussi qualifié qu'un homme, simplement parce que je suis une femme, mais en plus, si je suis en couple et que j'ai des enfants ou que je suis chargée de famille aidant, je vais en plus avoir la charge de travail domestique qui va s'ajouter à ce que je viens de te dire préalablement. Donc, tu as une sorte de double peine, en fait, qui est organisée socialement et qui pèse sur les femmes. Et c'est ça qui fait qu'elles vont tomber plus facilement sur le burn-out ou plus facilement dans des organisations de travail avec des caractéristiques du côté des violences sexistes et sexuelles.
Ouais. Le cocktail gagnant, quoi.
Perdant plutôt. Ouais. On peut le dire de cette manière-là. Voilà. Tu vois, donc ça, juste là-dessus, en complément, c'est très important d'aller regarder ces éléments-là parce que ça te permet de sortir d'une lecture qui serait attribuée au sexe biologique de la personne. Tant que tu penses les choses à partir d'un sexe biologique, tu es enfermé là-dedans et tu ne vois pas la réalité de ce qui se passe. Dès que tu sors de ça et que tu as une lecture genrée et que tu vois que c'est des représentations sociales qui vont du coup influencer notre manière de penser et d'agir, du coup, tu peux penser les choses correctement, si je puis dire, mais surtout, tu peux les réinterroger. Que tu sois un homme ou une femme, ça te permet de retravailler ton positionnement en tant que tel, déjà vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis des autres aussi.
Oui, merci. On va passer du coup à la partie plutôt pour aider à reconnaître les VSST. Comment reconnaître les VSST ? On en parle, on a commencé à identifier ce que c'était, à expliquer le contexte, mais pour concrètement les détecter et les prévenir, qu'il s'agisse de soi en tant que victime ou personne en risque de l'être, ou que ce soit pour les autres, les personnes témoins ou aidantes de victimes, comment nous aider à les reconnaître ? Moi, j'avais envie que tu puisses commenter certaines situations Bah là, j'en ai une hein, qui me vient, que j'avais notée, que je trouvais intéressante à aborder avec les auditrices, auditeurs. Mm-hmm. Tu vois, Jeanne, si on prend l'exemple d'un collègue qui me siffle au bureau, je pense que ça arrive fréquemment. Lorsque je passe devant lui, en fait, il me siffle et il me dit « ton jean, il te fait un beau petit cul ». On parle de quoi dans ce cas-là, en fait, concrètement?
Alors, ce qui est très important, c'est un très bon exemple que tu me donnes, Marlène, parce que c'est un exemple qui est courant. Et ça, c'est important de le dire. Dans les violences sexistes et sexuelles, il y a quelque chose qui est très banalisé et inscrit dans le quotidien. On n'est pas obligé d'être tout en haut de la pyramide dont je te parlais tout à l'heure, oui. Du côté du viol. Pas du tout. En fait, les agissements sexistes, tu en as tous les jours et potentiellement, tu as certaines organisations de travail en plus qui sont structurées là-dessus, avec l'histoire de la virilité dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. Donc, l'exemple que tu donnes là, pour pouvoir décoder en fait de quoi il s'agit, une des astuces que je donne, moi, aux personnes que j'accompagne ou quand je fais des interventions en collectif, c'est que dit la loi ? Et toujours d'aller se référer à la loi. C'est notre cadre de départ qui nous donne des définitions qui sont très claires. Il faut juste rentrer un peu dans la matière juridique. Mais à partir du moment où tu t'entraînes en fait à aller regarder la définition qui est donnée par la loi, tu es capable de reconnaître de quoi il s'agit. Donc typiquement, l'exemple que tu donnes, ça relève de ce qu'on appelle un outrage sexiste et sexuel. Et donc ça, c'est défini et c'est même devenu un délit, l'outrage sexiste, depuis le 1er avril 2023. Et c'est le fait d'imposer à une personne un propos ou un comportement qui a une connotation sexuelle ou sexiste. Donc ça, c'est le premier élément, tu vois, c'est que ça s'est imposé. Ça a un caractère sexuel ou sexiste et ça a deux objectifs. Soit ça va porter atteinte à la dignité de la personne parce que ça a un caractère qui est dégradant ou humiliant. Mmh. Soit ça va créer à l'encontre de cette personne-là une situation qui est intimidante, hostile ou offensante. Donc, tu vois, là, quand ton exemple, le collègue, il se permet de dire ça à une collègue, parce que c'est homme-femme, j'imagine, dans l'exemple que tu donnes, cet homme, en fait, il est en train de porter atteinte à la dignité de cette femme en étant sur des attributs à caractère sexuel de cette femme-là. Or, déjà, j'allais te dire, en dehors du travail, c'est inacceptable, mais ça allait encore plus dans le monde du travail, tu vois, par rapport aux règles qui régissent nos comportements les uns et les autres dans ce cadre d'activité professionnelle.
D'accord. Je voulais rappeler que, tu vois, les définitions là, de ce que tu expliques au niveau du cadre légal, ce sera identifié dans la description du podcast. Et puis, du coup, il y a un autre épisode, en fait, avec une avocate qui permettra de donner encore plus de matière, comme tu disais, sur ce versant-là.
Bah, parfait. Et je ne peux que inviter les auditeurs et auditrices à bien s'y référer parce que ça sera tout à fait complémentaire avec ce qu'on donne ce matin.
Oui, et puis c'est ce qui permet de encore mieux sensibiliser, encore mieux comprendre. Donc, effectivement, c'est très juste ce que tu disais de bien savoir de quoi il s'agit pour pouvoir encore mieux identifier les situations et leur caractère de gravité, quoi.
Exactement.
Alors, j'ai un autre exemple. Là, je me trouve lors d'une réunion avec plusieurs collaborateurs, collaboratrices. À la fin, en fait, j'ai une collègue qui demande un retour sur les résultats qu'elle a pu présenter lors de cette réunion. Mm-hmm. Et son chef fait mine d'être distrait et il annonce s'être perdu dans son décolleté. Mm-hmm. Ma collègue est super gênée. Lui répond oh, à chaque fois qu'elle rougit, j'adore. Ah, pardon. Là, tu vois, là, vraiment, moi, ça me choque. Là, on considère que ces paroles, elles sont vraiment déplacées. Mais est-ce qu'il s'agit d'humour ou alors c'est plus grave que ça ? Explique-nous, Jeanne.
Eh bien, en fait, c'est plus grave que ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, ça pourrait être interprété comme de l'humour dans le cadre de comportements normalisés au sein du travail. Sauf qu'en fait, c'est grave parce que c'est du harcèlement sexuel au travail. Oui. Donc, pareil, hein, harcèlement sexuel, faut aller regarder ce que dit le code du travail là-dessus. Et il y a deux éléments importants dans cet exemple-là. Et donc, je te remercie de l'avoir choisi parce que il nous permet de lever notamment une question de définition sur le harcèlement sexuel. c'est du harcèlement sexuel parce que tu vois que les propos tenus, bah, ils ont une connotation sexuelle, ils sont imposés à cette personne au regard du cadre dans lequel ça se passe. Et l'élément complémentaire qui est important, c'est que c'est de façon répétée. Quand dans ta phrase, l'auteur du propos dit « à chaque fois », ça veut dire que cet homme, il se permet de dire régulièrement dans le cadre du travail des propos de ce type-là et qu'il a conscience que ça a un effet sur cette femme puisqu'elle rougit. Et c'est à lui que ça fait plaisir, si je peux le dire de cette manière-là, par le « j'adore ». Sauf qu'en fait, ben, quel est le consentement de cette femme-là? Est-ce qu'elle est d'accord qu'on lui parle de cette manière-là dans le cadre du travail, etc., etc. Tu vois, elle, dans son comportement, qu'il y a quelque chose du côté d'une inhibition, donc qui peut être interprétée comme une atteinte, en fait, et de sa dignité et de sa situation dans le cadre professionnel. Voilà. Tous ces éléments-là, ça permet de caractériser, en fait, ce qu'est le harcèlement sexuel au travail. Je ne donne pas la définition juridique parce que ça sera fait dans l'autre podcast et que l'avocate, elle expliquera une subtilité aussi qui est importante entre le harcèlement sexuel qui a lieu de façon répétée et celui qui a lieu même de façon non répétée. Ça, on a deux subtilités dans la loi là-dessus. Je ne le développe pas aujourd'hui, mais c'est important d'avoir des éléments pour pouvoir bien apprendre aussi à identifier ce que j'ai subi si je suis victime potentielle ou ce que je suis peut-être en train de faire vivre à quelqu'un si je m'amuse à avoir ce type de propos-là dans le cadre du travail et que je n'ai pas conscience que ce que je suis en train de faire, en fait, ça s'appelle du harcèlement sexuel au travail.
D'accord. On y reviendra alors plus en détail. Mmh. Merci, c'est très éclairant. Bon, on continue avec une dernière illustration. Oui, je vais tester. En fait, c'est un patron qui, lorsqu'il est avec présence de son équipe, qui est composée principalement de femmes, lui, il exprime clairement que quand il n'y a que de femmes dans une équipe, que des femmes dans une équipe, ça ne peut pas fonctionner. Il est un peu en colère. Que c'est galère car du coup, il se demande qui garde les gosses malades. En fait, il sous-entend que le fait d'avoir que des femmes dans sa propre équipe, ça fout le bazar puisque du coup, les femmes, ce sont elles qui s'occupent des enfants à la maison et elles sont absentes régulièrement les unes des autres.
Donc, tu vois que ça dit plusieurs choses très intéressantes. La première, ça s'appelle un agissement sexiste.
Okay.
Typiquement, j'ai un propos peut-être même associé à des comportements discriminants, du coup, dans la manière de gérer mon équipe mixte, liée au sexe de la personne. Donc, c'est exactement ce dont on parlait en début de podcast. Mon point de départ, quand j'ai ce type de propos-là, c'est de dire, la personne en face de moi, elle est de sexe féminin ou de sexe masculin? Là, elle est de sexe féminin. Donc, je vais m'adresser à cette personne en fonction de son sexe et je vais attribuer à son sexe, un certain nombre de caractéristiques et de contraintes. Mais je ne vais pas du tout aller réinterroger que j'ai un monde du travail qui est structuré sur des rapports de domination homme-femme, qui est structuré sur une virilité défensive et dans laquelle je pense que les femmes sont moins que les hommes. Donc, tu pourrais même me dire, mais elle est où la réflexion en termes de compétences professionnelles, de niveau de formation, d'expertise?
Parce que si je m'adresse...
Si je m'adresse à des professionnels, peu importe le sexe de la personne, ce qui m'intéresse dans le monde du travail, c'est ses compétences, sa qualification, l'expertise qu'elle m'apporte, ce qu'elle est capable de produire en termes d'activité professionnelle. Donc, tu vois, c'est un biais, en fait, qui va avoir des conséquences très importantes derrière en termes de discrimination entre les hommes et les femmes. Et je te donne un chiffre que je trouve intéressant là-dessus. C'est une enquête de 2021 qui montrait que 80% des femmes sont régulièrement victimes d'agissements sexistes au travail. 80%, tu vois ?
C'est énorme.
Voilà. Et de l'autre côté, pour avoir quelque chose qui est équitable dans notre burn-out, dans notre podcast entre hommes et femmes, 40% des hommes déclarent avoir déjà entendu des remarques visant leur virilité ou celle d'un autre homme.
D'accord, ok.
Tu vois, et donc ces deux chiffres, je les trouve intéressants et je les trouve intéressants à les mettre en comparaison parce que nous aujourd'hui, on a un focus très sur les femmes, Mais il faut aussi dire que les hommes, ils sont attaqués dans leur identité masculine à travers ce prisme-là de la virilité. Mmh. Donc, en fait, on a à progresser des deux côtés.
C'est sûr. C'est pas évident de s'y retrouver entre une situation de agissement sexiste et un jeu de séduction, parce que ça peut aussi se produire en entreprise, tu vois, surtout par rapport à la question du genre dont on évoquait. Comment on fait la limite, comment on distingue en fait l'agissement sexiste de la séduction?
C'est une question qui est très importante. Et notre repère là-dedans, ça va être la notion de consentement. Et ça, c'est un repère clé qui doit être appris par les hommes et par les femmes, parce que ça va être préservateur à la fois de ce qui va relever d'un jeu de séduction et dans lequel les deux personnes sont consentantes, puisqu'on est dans le monde des adultes, si je peux dire de cette manière-là, versus à partir du moment où je suis dans les VSST, et quelles qu'elles soient les VSST, je suis du côté de la violence, donc je suis dans le fait d'imposer, en fait, d'une manière ou d'une autre à l'autre. Donc, ce repère-là, il est essentiel. Qu'est-ce que c'est que le consentement? C'est simplement d'avoir une posture homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, peu importe, dans laquelle on est dans la réciprocité et la mutualité. En gros, on est tous les deux d'accord pour ce qui est en train de se produire. Versus, dans les VSST, y en a un qui n'a pas dit qu'il était d'accord et qui subit. L'élément complémentaire là-dessus, c'est que le consentement, il peut être formulé par des propos, par des comportements ou les deux. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de subtilité. Et il y en a dans la notion de consentement. Ce qui fait que, par exemple, si je ne dis pas non, c'est-à-dire que mon silence ne veut pas dire oui, le silence ne vaut pas acceptation. Et que le consentement, il est temporaire. S'il est temporaire, je peux le donner et je peux le retirer.
Oui, je suis libre.
Exactement. Et c'est vrai pour les deux partenaires. Donc, ça veut dire qu'on le replace dans le monde du travail, ce que je suis en train de te dire. Mmh. Et il n'y a jamais de relation, on prend l'exemple d'une relation à caractère sexuel, par exemple, qui est acquise ou due dans le monde du travail.
Non, ça n'existe pas.
Non, en fait. Et donc ça paraît évident quand je te le dis comme ça, mais c'est hyper important parce que dans le monde du travail, on a des rapports hiérarchiques. Si en plus je suis dans un monde du travail qui est structuré sur un rapport où les hommes, ils ont plus que les femmes et potentiellement j'ai de fortes chances que mes supérieurs hiérarchiques soient des hommes, exemple standard, ça peut induire que ce rapport hiérarchique-là, il pourrait sous-entendre pour les hommes que ils ont droit à des relations sexuelles, par exemple, ou des agissements à caractère sexuel dans le monde du travail, et que c'est normal. Et ça peut induire pour les femmes qu'il est normal d'accéder à la demande des hommes.
Oui.
Alors que c'est tout l'inverse. Avec cette notion de consentement-là, elle me permet de comprendre que je sois homme ou femme, je me dois d'abord de passer par la notion de consentement pour aller plus loin. Parce que, évidemment, dans le monde du travail, c'est un lieu de prédilection pour les rencontres, tu vois. Mais on parle de deux choses différentes, entre se rencontrer, être d'accord pour un jeu de séduction qui peut aboutir éventuellement à autre chose, ou utiliser en fait le rapport professionnel pour obtenir quelque chose par la contrainte.
Oui, ok. Donc, du coup, une situation de séduction, c'est vraiment d'égal à égal. Lorsqu'on est dans le cadre d'un autre jeu entre un homme et une femme, ou femme-femme, homme-homme, et qui a un caractère de VSST, là, il va y avoir une contrainte. C'est ce mot qui est hyper important, je crois. Une forme d'emprise, une contrainte, en tout cas. Quelque chose pas consenti.
Exactement. C'est-à-dire, en fait, à partir de ça, tu peux voir que quand une personne, elle souhaite rentrer dans le jeu de séduction, en fait, les signes, ils sont évidents parce que ça, on l'apprend au fur et à mesure de notre vie à repérer est-ce que cet homme ou cette femme, je lui plais, est-ce qu'il y a une attirance et éventuellement, est-ce que ça va plus loin entre nous. Alors que, par exemple, dans le, dans l'IVSST, comme tu es du côté de la contrainte, ben, du coup, tu ne peux pas avoir de confusion entre ce qui relève de la séduction, avec ces signes évidents-là, et ce qui relève de la contrainte.
Okay. Bon, merci Jeanne pour tous ces facteurs de risque dont tu viens de nous parler. Est-ce que tu en vois d'autres, du coup ? Ils sont bien spécifiques ?
Oui, alors en fait, cette notion de facteur de risque, elle est très importante parce que c'est des éléments de repère, encore une fois. Et quand j'ai des éléments de repère, je peux penser. Quand je peux penser, je peux faire évoluer les situations. Et ça donne des clés de lecture communes, à la fois que je sois salariée, à la fois que je sois côté direction ou de l'ensemble des acteurs en fait, qui vont intervenir sur cette question-là en entreprise. Donc, on peut aussi avoir une lecture sur les VSST à partir de 3 catégorisations de facteurs de risque, ce qu'on va appeler les facteurs socio-professionnels. Par exemple, il y a une faible mixité dans le milieu de travail dans lequel je suis, ou alors je suis dans un milieu de travail où il y a des situations de tension avec le public, les prestataires, les patients, ou je vais dans un collectif, nous en tant que psycho du travail, on va parler de mauvaise santé du collectif, donc c'est un collectif de travail qui ne va pas être très solidaire, qui n'est pas soutenant, qui n'est pas intégrant. Ça, c'est des facteurs socio-professionnels de risque de VSST. Mmh. Autre catégorie, c'est des facteurs socio-démographiques. Donc, je suis par exemple un homme ou une femme en situation personnelle, par exemple en mobilité, je suis mère isolée, je viens juste de prendre mon poste, j'ai un handicap, je suis originaire d'un pays étranger, j'ai un conditionnement culturel sur des stéréotypes de genre. Tout ça, c'est des facteurs sociodémographiques qui sont intéressants aussi à repérer et qui sont des facteurs explicatifs des VSST, mais du coup, qui sont aussi à les regarder en termes de déconstruction à opérer pour pouvoir sortir en fait, de cette lecture genrée. Les facteurs organisationnels, après, donc nos fameux risques psychosociaux dont tout le monde maintenant est familier, et donc là, on en avait un peu parlé sur le premier podcast sur le burn-out. Donc là, je renvoie aussi nos auditeurs et auditrices sur le podcast et sur les travaux qui ont été réalisés dans ce qu'on appelle le rapport GOLAC, parce qu'il nous donne vraiment tous les critères de façon très fine pour étudier les risques psychosociaux. Donc, je t'en cite quelques-uns. C'est est-ce que dans mon organisation de travail, une des caractéristiques, c'est l'intensité, la complexité du travail, c'est les horaires de travail difficiles, par exemple soir-nuit, c'est l'insécurité dans ma situation de travail, est-ce que j'ai une autonomie ou pas, les exigences émotionnelles. Donc, tous ces critères-là, ils permettent de caractériser l'organisation du travail, les conditions de travail auxquelles je suis assujettie et donc les effets potentiels que ça peut avoir à la fois sur le travail et les rapports genrés dans le cadre du travail.
Ok. Donc toi, j'imagine que dans ta pratique en tant que psy du travail, tu dois vraiment te baser sur ces facteurs-là pour identifier peut-être des personnes, des patientes victimes de VSST.
Tout à fait. Alors, on a deux modalités de travail en tant que psy du travail, à la fois une modalité collective et une modalité individuelle. Alors, en collectif, on intervient en fait dans les organisations de travail et on va utiliser, tu vois, les facteurs que je viens de te citer, par exemple, ces 3 catégories-là, pour pouvoir caractériser en fait des milieux de travail et effectivement voir si tu as des hommes ou des femmes qui sont assujettis à ces comportements-là. Et avec la notion de normalisation dont je te parlais, de ces comportements. Mais nous, on a du coup les repères conceptuels qui nous permettent de comprendre et de savoir que ce n'est pas normal et donc de déconstruire ça pour aller les repérer et les renvoyer derrière sur des interlocuteurs dédiés, faire des accompagnements de collectifs pour faire bouger en fait ces comportements-là qui ont aussi, on ne l'a pas trop dit pour l'instant, mais conséquences directes sur le travail et la qualité du travail. Donc, c'est aussi important de ce point de vue-là. Après, l'autre modalité d'intervention, c'est effectivement pour un certain nombre d'entre nous, on a une spécialisation en psychopathologie du travail qui va nous permettre d'accompagner à titre individuel des personnes qui, par exemple, sont victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Et là, du coup, on va utiliser ces repères-là et puis aussi ce qu'on appelle des repères symptomatologiques. et des repères aussi comportementaux. Je t'en cite un qui me semble important, notamment chez les femmes que je peux recevoir victimes de violences sexistes et sexuelles au travail, c'est la culpabilité. Et ça, je voudrais le dire aujourd'hui pour aider en fait nos auditeurs et nos auditrices, parce que la culpabilité, ça amène au silence. Et le silence, ça amène potentiellement à une dégradation de mon état de santé sur le plan psychologique quand j'ai subi en fait ce type d'agissement-là. Or, pourquoi il y a de la culpabilité ? Bah parce qu'avec tout ce qu'on vient de se dire en termes d'attribution sociale, de représentation sociale genrée, eh ben, je prends un exemple classique, être une femme qui me fait agresser sexuellement sur le lieu de travail et du coup, croire, à regard de tout ça, que c'est normal et que c'est de ma faute. Mmh. Et du coup, ne pas oser derrière aller demander de l'aide, demander à ce que la situation cesse. Tu as beaucoup de femmes qui vont ne rien dire et subir de façon répétée, tu vois, ce type de comportement. Or, en premier lieu, la première étape importante, c'est oser prendre la parole, oser dire et demander que ça cesse. Donc cette notion de culpabilité, elle est importante parce que je te dirais que 9 fois sur 10, les personnes que je reçois vont avoir un propos du type bah, « c'est de ma faute en fait ce qui s'est passé ». Or non, ça ne peut pas être de la faute de la personne puisqu'on a parlé de contraintes et de violences exercées sur elle et que la violence, ça amène à quelque chose du côté de la suspension de la pensée et aussi une réaction sur le plan émotionnel qui potentiellement m'empêche de réagir tellement je suis, nous on va parler de débordement en fait émotionnel dans ce qui est en train de se passer. Un des mots clés, c'est la notion d'effraction en fait, que l'agresseur est en train de créer chez moi quand il est sur des violences sexuelles. Et ça, potentiellement, ça va me figer et ça va m'empêcher de réagir dans la situation. Et comme je me suis sentie empêchée de réagir, je vais l'interpréter comme étant de ma faute. Donc, d'accord. La culpabilité, tu vois.
C'est le corps qui envoie presque ce message, en fait, suite au choc subi, au choc émotionnel, au traumatisme. Et le corps envoie cette réponse, peut-être sous forme de protection, de culpabilité, de se dire que non, c'est rien.
C'est une des caractéristiques.
Quand bien même c'est quelque chose, c'est de ma faute.
En fait, tu as une articulation entre ce qui se passe sur le plan cérébral, corporel et sur le plan psychique.
Oui, comme pour le burn-out.
Okay. Exactement. Mm-hmm. Et donc, ça a à voir avec notre cerveau reptilien qui va nous envoyer un message du type « attention, danger ». Et sur le plan psychique, je vais plutôt le regarder comme une effraction. Et du coup, il y a une traduction sur le plan physique qui se fait notamment par le fait d'être figé ou de ne pas réussir à dire non, de ne pas réussir à prendre la fuite. Et ça, en fait, ça majore le vécu de souffrance en fait, des personnes sur le plan psychologique. Oui, donc, c'est important, cette notion-là, parce que un des mots clés, vraiment, aujourd'hui, c'est de dire si je subis ce type de comportement et que j'ai un doute, eh ben mon doute, il est fondé. Et c'est parce que j'ai un doute que je vais chercher de l'info. Jamais, jamais rester seule. Il vaut mieux avoir un doute et qu'on vienne me dire, ben non, effectivement, monsieur ou madame, ça ne relève pas des VSST. Mais au moins, j'ai levé mon doute et je peux passer à autre chose, si je peux le dire de cette manière-là, plutôt que d'avoir un doute et de s'enfermer potentiellement dans une situation qui peut se répéter et qui va de toute manière de plus en plus m'abîmer.
Ok. Merci. On voit en fait qu'il y a énormément de conséquences sur la santé avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Concrètement, quel est l'impact des VSST sur notre santé et sur la carrière en fait ? Je suppose qu'il y en a des multitudes.
Alors, il y en a beaucoup, je vais t'en citer quelques-unes importantes. D'abord, ça a des conséquences sur le plan du travail parce qu'effectivement, à partir du moment où je suis atteinte à la fois sur le plan psychique, mais éventuellement aussi sur le plan physique, en fonction de ce que j'ai vécu. Je peux potentiellement ne pas être en capacité de travailler, tout simplement. Ça paraît évident, mais multiplier à l'échelle d'une organisation de travail ou à l'échelle nationale, ça a des conséquences en termes d'arrêt de travail, arrêt de productivité et de coûts aussi pour la société en termes de prise en charge.
Ouais.
Tu vois, les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail, elles sont directement concernées par des troubles psychiques. Là, je parle plus de ma partie. Et ces troubles psychiques, du coup, ils sont liés au travail, aux conditions de travail. Et 26% des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles au travail, elles ont rencontré derrière des problèmes de santé. Et 21% d'entre elles, elles ont rencontré des difficultés de professionnelles. Donc, ça va avoir des conséquences sur le plan de ma santé physique et psychique, mais aussi sur mon emploi et ma carrière professionnelle. En termes de santé, ça va me mettre potentiellement dans des situations de stress, soit à minima de stress aigu, soit de stress chronique. Et on sait que le stress, il favorise, par exemple, le diabète chez les femmes. De même, les femmes au travail qui subissent ce stress chronique-là, elles voient leur risque de maladie cardiovasculaire augmenter de 40%. Donc ça, c'est des conséquences directes sur le plan corporel. Sur le plan psychopathologique, je vais aller sur les états de stress aigu, éventuellement du trauma, donc ce qu'on va appeler le trouble de stress post-traumatique, voire PTSD dans les traumas complexes. Et ça, ça va être associé à ce qu'on appelle de la comorbidité. Donc, c'est des pathologies qui vont être associées au trauma. Donc, typiquement, la dépression, je peux avoir des conduites addictives qui vont venir se mettre en place également, et autres, tu vois. Donc, là, c'est des conséquences sur le plan psychique. À minima, on va dire que j'ai une souffrance psychique, un désarroi psychique réel qui va se mettre en place quand je subis ce genre de choses, qui est majoré, encore une fois, ça je veux le dire, par le silence collectif. Hein, parce que si je suis dans le monde du travail et que je ne sais pas vers qui me tourner, et que en plus je suis dans une organisation où on n'en parle pas et on ne va pas venir me voir si je suis en difficulté, et ben je m'enferme dans mon vécu de solitude et de souffrance. Donc, ça majore aussi l'aspect psychopathologique des choses. Ensuite, tu l'as cité, directement sur ma capacité à faire mon travail, à continuer à évoluer dans mon environnement professionnel et potentiellement sur ma carrière, puisque si ça a des conséquences sur le plan de la santé, ça veut dire que potentiellement je vais être mise en arrêt de travail. Donc, je vais devoir quitter temporairement, peut-être définitivement, mon emploi. Et pour certaines personnes, ça a des conséquences vraiment très importantes. Et ça, on le voit, nous, avec notre spécialité en psychopatho du travail, parce que ça peut faire des femmes, par exemple, qui ne pourront plus jamais exercer le métier qu'elles exerçaient ou qui ne pourront plus exercer dans cet environnement de travail-là et qui vont devoir, en plus de l'aspect récupération-guérison, aussi avoir une logique de transition professionnelle et de changement, soit d'entreprise, soit de métier. Et souvent, ce que je peux voir, c'est que c'est associé aussi à une perte économique pour
oui,
elle, tu vois.
Effectivement, voilà. Ouais. Une forme de donc, précarité finalement
exactement.
Qui s'installe au fil de
oui. Oui.
Que la situation se dégrade, quoi.
Exactement. Ouais. Donc nous, on a beaucoup d'indicateurs de vigilance là-dessus dans les prises en charge. On travaille de façon pluridisciplinaire et on est extrêmement bien formés. Il faut profiter de ce podcast pour remercier Marie Peset et toute son équipe pour le travail qu'ils font, hein, parce que c'est grâce à tout ce travail-là que derrière nous, en tant que psy du travail avec cette spé en psychopathologie du travail, on est capable de bien accompagner en fait les personnes victimes, entre autres, de VSST.
Merci. Tu te souviens, en 2020, en septembre 2020, avec le comité scientifique Elburn, dont tu fais partie, tu es la présidente, 91% des femmes interrogées considéraient que leur burn-out avait un lien avec leur genre. Bon, ça, c'est clair, on le sait. Mais parmi elles, 20% évoquent l'existence de violences sexuelles et sexistes au travail. Ce chiffre, il est important, en fait. Parce que ça nous dit qu'il y a bel et bien un pont, un lien entre burn-out et VSST. Et tu l'as expliqué aussi là avec les conséquences sur la santé. On voit qu'il y a des choses en commun. Comme beaucoup en témoignent, en fait, qu'est-ce qui précipite, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce lien là, ce pont entre VSST et burn-out ? Est-ce que c'est le burn-out qui précipite vers les VSST ou bien les VSST qui précipitent vers le burn-out. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des éléments là-dessus à nous expliquer?
Alors, c'est une question qui est intéressante et qui n'est pas facile, hein, tu vois, donc qui mériterait d'être étudiée à part entière dans le champ de la recherche. Il me semble, par rapport à ce que je peux constater d'un point de vue clinique, à la fois sur le plan individuel et collectif, qu'il y a un pont, effectivement, entre les deux. Et je vais te donner l'image de la double flèche, c'est-à-dire je peux être dans la catégorie burn-out et aller vers les VSST, comme je peux être des VSST pour aller vers le burn-out. À mon avis, c'est dynamique et dans ce double sens-là. Je peux être en situation de burn-out et du coup, je suis atteinte et vulnérable. Et si je suis atteinte et vulnérable, je peux moins me défendre. Donc, si je fais un burn-out dans une organisation de travail qui est structurée sur des agissements et une normalisation de comportement qui relève en réalité des VSST, je peux potentiellement être plus sujette à subir en fait ces VSST-là, en plus de tout ce qu'on a dit préalablement. Tu vois, ça se superpose, on peut faire une addition. En fait.
Oui.
De même, si je suis dans une organisation de travail où les comportements sont structurés et normalisés du côté des VSST, je vais atteindre potentiellement les ressources des personnes qui travaillent dans cette entreprise-là. Et c'est comme un travail de sape qui va s'opérer sur la durée, sans doute de manière inconsciente pour un certain nombre de personnes, et qui va venir potentiellement se cumuler avec des caractéristiques du côté du travail de surcharge, puisque la question du burn-out, c'est la question de l'épuisement par rapport à une surcharge. Et cette vulnérabilité-là, elle peut m'amener, toujours dans cette logique de cumul, vers une décompensation du côté du burn-out. Donc, pour résumer ça, les dénominateurs communs entre ces deux questions-là, ça va être la question de l'amenuisement de mes ressources individuelles, l'amenuisement ou l'absence de ressources collectives, l'atteinte de l'estime de moi. On parlait de la culpabilité préalablement. Si je me sens atteinte dans mon image, dans la femme que je suis, parce que régulièrement, quand j'arrive au travail, on me tient des propos, voire des comportements sexistes et sexuels, et qu'en plus, je m'en veux parce que je suis persuadée que c'est de ma faute, et que tu viens me rajouter des conditions de travail où je n'ai pas le temps de penser mon travail, je dois produire vite, beaucoup, rapidement, je suis à double risque, burn-out et VSST. Donc, ça a à voir avec des situations qui sont dégradées, un environnement qui est dégradé et qui va avoir des conséquences sur moi en tant qu'individu ou sur le collectif. On a beaucoup posé les choses en termes individuels aujourd'hui, mais il faut jamais oublier cette composante-là collective. Et la violence, elle est collective. On a parlé de cette notion de violence-là. Elle est collective dans son expression et dans son maintien. C'est parce que je suis dans un collectif de travail ou une organisation de travail où il y a une normalisation de la violence que l'ensemble des personnes se conforment à des agissements ou des comportements du côté de la violence.
Ok, merci Jeanne. J'aimerais que... quand on a préparé cet épisode, tu m'as cité l'exemple du secteur du bâtiment. Et vraiment, j'ai eu comme un tilt, une révélation quand tu m'as parlé de ça. J'ai trouvé ça très, très concret. Est-ce que tu peux, en une phrase ou en quelques phrases, nous expliquer ce contexte?
Oui, je l'ai choisi parce que pour le coup, il est stéréotypé, en fait, cet exemple-là. Mais il est très intéressant, je trouve. Ça a à voir avec des études qu'on réalise dans ma discipline, en psycho du travail, et qui ont permis justement d'identifier des comportements du côté de la virilité et qui est une illustration de comment les VSST peuvent prendre forme dans le monde du travail. Donc, cette étude, elle avait permis de révéler qu'effectivement, dans le secteur du BTP, tu avais une prédominance d'hommes par rapport aux femmes qui exercent ces métiers-là. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des métiers qui vont du coup plutôt être dits des métiers d'hommes, qui vont être du côté de la force physique, du côté du danger. et du coup qui vont faire appel à ce qu'on appelle la virilité. Mais en psycho du travail, on va te parler d'une virilité défensive, défensive de la réalité du travail et de ce qu'il me demande en tant qu'homme pour pouvoir être en capacité à faire ce travail-là. Et dans cette virilité défensive, je vais donc penser le rapport homme-femme dans le cadre du travail avec une logique où je suis un homme viril en capacité à faire ce métier potentiellement dangereux, donc je dois, pour pouvoir être capable de le faire, me penser supérieur par rapport à d'autres catégories. Donc là, on prend l'exemple catégorie homme-femme, mais ça peut être aussi sur les orientations sexuelles. Donc, je vais aussi, par exemple, dire, bah, parce que je suis un homme viril, je ne suis pas homosexuel. Parce que les homosexuels, je vais les catégoriser comme les femmes, du côté de la faiblesse, qui n'est pas capable de faire face aux peurs et aux réalités de métier à exercer. Donc, je vais les penser en moins. Et comme je vais les penser en moins, je vais les attaquer à partir d'une caractéristique. Donc, caractéristique orientation sexuelle ou caractéristique genrée. Donc, si je suis un homme viril qui travaille dans le BTP, ben, potentiellement, je vais être construit sur une norme qui est que les femmes, elles sont moins que moi, elles sont potentiellement des objets sexuels, et donc je vais les attaquer sur ce plan-là, et je vais m'autoriser à avoir des comportements et des propos qui renvoient à leur sexe biologique.
D'accord.
Donc ça, c'est très intéressant d'aller repérer ça, parce que ben, ça te permet en fait à la fois de comprendre comment ces personnes qui travaillent dans le BTP arrivent à tenir la réalité des difficultés de leur métier, des contraintes de métier, et à la fois pourquoi elles s'autorisent à être dans ces comportements-là avec d'autres catégories.
On est encore sur l'organisation de la société quelque part.
À la fois organisation du travail, à la fois organisation de l'entreprise et à la fois les représentations sociales normées d'une société.
Oui.
Et je t'ai cité tout à l'heure notamment le conditionnement culturel. Nous, on positionne beaucoup les choses par rapport à la France, là, aujourd'hui. Mais tu vois qu'en fonction du pays où je suis, je vais avoir des stéréotypes de genre potentiellement marqués du côté de la virilité qui sont plus ou moins forts. Okay. Et donc là, ce conditionnement culturel-là, il est très important parce qu'il va venir expliquer, en fait, ces comportements-là. Et à partir de là, tu vas pouvoir... déconstruire cette croyance qu'il y a une normalité à cette histoire d'attribution sociale genrée, de représentation sociale genrée, elle infiltre tous les niveaux de la société et tous les métiers. Par contre, elle n'est pas pensée de la même manière sur le plan politique. C'est pour ça que l'entrée par le droit est importante, parce que c'est à la fois la société qui fait bouger le droit et c'est à la fois le droit qui fait bouger la société. Donc, il faut regarder en fonction du pays l'état d'avancement sur le plan politique et sur le plan légal sur ces questions-là, parce que c'est ça qui va conditionner le fait que derrière, je peux traiter sur le plan juridique la situation et je peux faire évoluer les représentations et les mesures de prévention aussi qui sont mises en place en entreprise.
Donc comme je te le disais, on se retrouve dans la partie 2 pour évoquer toutes les mesures de prévention. À tout de suite.